2. Alors, dit Pimli en s'asseyant dans l'une des deux bergères à oreilles situées près de la fenêtre, tu as trouvé un drone d'entretien. Où ça ?
Près de l'embranchement où la voie 97 quitte la gare de triage. Les rails sont encore chauds. Il y a même ce qu'on appelle un troisième rail. Ceci explique cela. Alors, après notre départ, vous avez appelé et dites qu'il y a une seconde alerte.
Oui. Et tu as trouvé ?
Rien du tout. Cette fois-ci, rien du tout. Il s'agit probablement d'un dysfonctionnement, peut-être même provoqué par la première alerte.
Il haussa les épaules, exprimant par ce geste ce qu'ils savaient tous deux. Tout partait en capilotade. Et plus ils se rapprochaient de la fin, plus ça allait vite. « Toi et tes gars, vous avez bien inspecté les lieux, dis-moi. »«
Bien sûr, pas d'intrus. »
Ils réfléchissaient tous les deux en termes d'intrus humains, taïn, cantois ou mécaniques. Personne parmi la petite bande de Finley n'avait pensé à lever la tête, et il y avait fort à parier qu'ils auraient manqué Mordred, même s'ils l'avaient fait. Une araignée aussi grosse qu'un berger des Pyrénées, tapie dans l'ombre sous l'avant-toit de la gare, retenue par un petit hamac tissé. Tu vas procéder à une nouvelle vérification du télémètre. Du fait de cette deuxième alerte ?
En partie, répondit Finley. Mais c'est surtout parce que tout ça me paraît un coup de Jarnac.
C'était là une expression qu'il avait empruntée à un de ses romans policiers de l'autre côté. Leur lecture le fascinait et il l'utilisait à la moindre opportunité. Un coup de Jarnac à quel point ? Finley se contenta de secouer la tête. Il n'aurait su le dire.
Mais le télémètre ne ment pas. En tout cas, c'est ce qu'on m'a appris.
Tu le mets en doute ? Mesurant qu'il se trouvait à nouveau sur un terrain glissant, qu'ils s'y trouvaient tous les deux, Finley hésita, puis décida de se jeter à l'eau.
On arrive à la fin des temps, patron. Je mets quasiment tout en doute, nom d'un chien.
Est-ce que cela inclut ton devoir, Finley Otego ? Finley secoua la tête sans l'ombre d'une hésitation. Non, ça n'incluait pas son devoir. C'était pareil pour eux tous, y compris l'ancien Paul Prentice de Rahway. Pimli se remémora cette phrase d'un vieux soldat, peut-être ce bon vieux Doug MacArthur qui disait « Lorsque mes yeux se fermeront dans la mort, messieurs, ma dernière pensée ira à ce corps, et au corps, et au corps. »
Pour sa part, les dernières pensées de Pimli iraient sans doute à Algul Siento.
Car que lui restait-il d'autre ? Pour reprendre les paroles d'un autre grand Américain, ou plutôt une grande Américaine, Martha Reeves, de Martha et les Vandellas, il n'avait nulle part où s'enfuir, bébé, nulle part où se cacher. La situation leur avait échappé, ils dévalaient la pente sans frein et ils n'avaient plus rien d'autre à faire qu'à profiter de la balade.
« Ça te dirait un peu de compagnie pendant ta ronde ?» demanda Pimli.
« Pourquoi pas ?» répondit la fouine.
Il sourit, révélant une rangée de dents affûtées comme des rasoirs, et se mit à entonner d'une étrange voix tremblotante.
« Rêve avec moi. Je suis en route vers la lune de mes ancêtres. »«
Donne-moi une minute, »
fit Pimli en se levant.
« Pour la prière ?»
demanda Finley. Pimli s'immobilisa dans l'embrasure de la porte.
« Oui, puisque tu poses la question. Un commentaire peut-être, Finley Otego ?»«
Une suggestion éventuellement. »
La chose à corps d'homme et à la tête de fouine marron et lustrée souriait toujours.
Si la prière élève tellement l'âme, pourquoi vous agenouillez-vous dans la même pièce que celle où vous vous asseyez pour chier ?
parce que la Bible préconise, quand on a de la compagnie, de s'isoler dans son intimité pour prier. D'autres questions ?
Non pas, Nenny.
Finley agita une main désinvolte.
Fais de ton mieux et de ton pire, comme disent les manies.
3. Dans la salle de bain, Paul de Raway rabattit le couvercle des toilettes, s'agenouillant sur le carrelage et croisa les mains.
« Si la prière élève tellement l'âme, pourquoi vous agenouillez-vous dans la même pièce que celle où vous vous asseyez pour chier ?»«
Peut-être que j'aurais dû répondre que c'est pour rester humble, se dit-il, pour garder ma place. » C'est de la poussière que nous sommes nés et c'est à la poussière que nous retournerons. Et s'il y a une pièce où cette réalité est difficile à oublier, c'est bien celle-ci.
Dieu, commença-t-il,
accorde-moi la force quand je suis faible, des réponses quand je suis perdu, du courage quand la peur me gagne. Aide-moi à ne pas faire de mal à quiconque ne le mérite pas et pour ceux qui le méritent. Seulement s'il ne me laisse pas d'autre choix. Seigneur.
Et agenouillé ainsi devant la cuvette des toilettes, cet homme sur le point de demander à Dieu de lui pardonner de travailler à la chute de la création, et cela sans aucun sens de l'ironie, nous ferions bien de l'observer un peu plus attentivement. Ça ne prendra qu'un instant. Car Pimley Prentiss n'est pas central dans le récit des aventures de Roland et de son cadette. Pourtant, c'est là un homme fascinant, plein de méandres, de contradictions et d'impasses. C'est un alcoolique qui croit très fort à un dieu personnel. Un homme plein de compassion qui s'apprête maintenant à renverser la tour et à envoyer voler les milliards de mondes qui tournent autour de son axe dans les ténèbres, dans des milliards de directions différentes. Il mettrait illico Dinky Earnshaw et Stanley Ruiz à mort s'il savait ce qu'il manigance. Et presque chaque année, il passe la fête des mères en larmes, car il aimait sincèrement sa ma. Et elle lui manque cruellement. En ce qui concerne l'Apocalypse, il est tout à fait l'homme de la situation, lui qui sait s'agenouiller et qui s'adresse au Seigneur des Esprits comme à un vieil ami. Et c'est là l'ironie de la situation. Paul Prentiss pourrait parfaitement illustrer une publicité qui dirait « J'ai trouvé mon emploi dans le New York Times » en 1970. Fraîchement sorti de la prison, alors connu sous le nom d'Attica, lui et Nelson Rockefeller avaient raté la grosse émeute au moins. Il avait repéré une petite annonce dans le Times qui disait « On recherche, surveillant qualifié, avec grand sens de la discipline pour poste à responsabilité dans un institut privé. Gros revenus, bénéfices garantis, mobilité géographique nécessaire. » Les gros revenus s'étaient révélés être ce que sa chère Ma aurait appelé un mensonge pur sucre, car il n'y avait pas de revenus du tout, pas dans le sens où l'aurait compris un surveillant qualifié américain. Mais pour les bénéfices, ouais, les bénéfices étaient exceptionnels. Pour commencer, il s'était vautré dans le sexe comme il se vautrait maintenant dans la nourriture et l'alcool. Mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, aux yeux de Cy Prentiss, c'était de savoir ce qu'on attendait de la vie. Si c'était seulement regarder les zéros s'aligner sur son relevé de compte en banque, alors on n'avait rien à faire à Al Gulciento. Ce qui pour lui serait terrible, parce qu'une fois qu'on avait signé, impossible de faire machine arrière. C'était tout pour le corps. Et le corps. Et de temps à autre, quand il fallait faire un exemple, en refroidir un ou deux de corps. Ce qui collait à 100% les doigts dans le nez à Maître Prentiss, qui avait eu droit à sa cérémonie taïne de baptême officiel 12 ans plus tôt et ne l'avait jamais regretté. Paul Prentiss était devenu Pimley Prentiss. C'était ce jour-là qu'il avait détourné le cœur et l'esprit de ce qu'il appelait aujourd'hui « le côté Amérique ».
Et ce n'était pas parce qu'il avait goûté au paradis bleu la meilleure omelette norvégienne et le meilleur champagne de sa vie. Non plus parce qu'il avait expérimenté le simusex avec des centaines de femmes superbes. C'était parce que c'était son boulot et qu'il avait bien l'intention de le finir. Parce qu'il en était venu à croire que leur travail au Dévartois était autant celui de Dieu que du roi cramoisi. Et derrière l'idée de Dieu apparaissait un concept encore plus puissant, l'image de milliards d'univers entassés dans un œuf que lui, autrefois Paul Prentice de Rahway, tournant à 40 000 $ par an, avec un ulcère à l'estomac et un mauvais bilan médical validé par un syndicat corrompu, tenait aujourd'hui dans le creux de sa main. Il comprenait qu'il se trouvait lui aussi à l'intérieur de cet œuf, et qu'il paierait de sa propre chair à l'instant où il l'écraserait. Mais s'il y avait un paradis et un dieu dedans, ces deux-là devaient transcender le pouvoir de la tour. C'est à ce paradis-là qu'il irait, et il s'agenouillerait devant ce trône pour demander le pardon de ses péchés, et on lui souhaiterait la bienvenue d'un jovial « Bien joué, bon et loyal serviteur ». Et sa main serait là, et elle le serrerait dans ses bras, et ils entreraient ensemble dans la confrérie de Jésus. Ce jour viendrait, Pimli en était convaincu, et sans doute avant le retour de la lune de la moisson. Il ne se considérait pas comme un cinglé de religieux, pas du tout. Toutes ses pensées au sujet de Dieu et du paradis, il les gardait pour lui. Pour le reste du monde, il n'était qu'un quidam faisant son travail, et il avait l'intention de le terminer en beauté. Il ne se voyait certes pas comme un méchant, mais aucun homme réellement dangereux ne s'était jamais vu comme tel. Il suffisait de repenser à Ulysses S. Grant, général de la guerre de sécession, qui avait dit qu'il comptait poursuivre les combats, même si ça devait prendre tout l'été. Et à Al Ghul Siento, l'été touchait à sa fin. 4. La tanière du maître était un petit bungalow tranquille au bout de l'allée. On l'appelait la maison Chapley. Pimli ne savait absolument pas pourquoi. Et bien sûr, les briseurs l'appelaient la maison de la merde. À l'autre bout de l'allée se trouvait un édifice bien plus grand. Une folie ravissante de l'époque de la reine Anne, appelée, pour des raisons tout aussi obscures, la maison d'Amli. Elle n'aurait pas détonné le long d'une rue du Mississippi. Les briseurs la surnommaient la maison des cœurs brisés, ou parfois l'hôtel des cœurs brisés. Très bien. C'était là que les taïnes et un gros renfort de cantois vivaient et travaillaient. Quant aux briseurs, ils n'avaient qu'à se défouler avec leurs petites blagues et autant les laisser croire que le personnel n'en savait rien. Pimli Prentice et Finley Otego remontèrent l'allée dans un silence amical. Sauf, bien sûr, lorsqu'ils croisèrent des briseurs qui avaient quartier libre, seuls ou à plusieurs. Pimli saluait chacun d'entre eux avec une courtoisie sans faille. Leurs réponses variaient entre le petit cri joyeux et le grognement maussade. Pourtant, ils manifestèrent tous une réaction, ce que Pimli considérait comme une victoire, car il les aimait bien. Ils étaient plus faciles à encadrer que les meurtriers, les violeurs et les braqueurs d'Attica. Certains lisaient de vieux journaux ou des magazines. Un groupe de quatre jouait au fer à cheval, un autre se trouvait sur le green. Tania Leeds et Joey Rastosovich jouaient aux échecs sous un bel orme centenaire et le soleil leur mouchetait le visage. Ils l'accueillirent avec un plaisir non fin, et pourquoi s'en étonner? Tania Leeds était devenue Tania Rastosovich, car Pimli les avait mariés un mois plus tôt, tout comme le capitaine à bord de son navire. Et il se disait que c'était bien ce qu'il était, en un sens. Le capitaine du bon vieux Rafio, l'Al Ghul Siento, vaisseau de croisière qui voguait sur les eaux noires de Tonnefoudre, dans son propre rayon de soleil. Le soleil s'éteignait de temps à autre, vrai. Mais aujourd'hui, la panne avait été minime, seulement 43 secondes.
« Comment va, Tania ? Joseph ?
Toujours Joseph, jamais Joey. Du moins, jamais en face. Il n'aimait pas ça. Ils répondirent que tout allait bien et lui adressèrent un de ces sourires hébétés d'extase sexuelle dont seuls sont capables les jeunes mariés. Finley ne dit rien au Rastosovitch, mais en approchant du bout de l'allée, côté maison d'Amly, il s'arrêta devant un jeune homme assis sur un banc en faux marbre sous un arbre en train de lire.
« Ça, Yernjo ?»
l'interpella le Taïn. Dinky leva les yeux, les sourcils arqués en une expression de curiosité polie. Son visage impassible était constellé d'une mauvaise acné.
« Vous lisez le mage à ce que je vois, » dit Finley presque timidement. « Je suis moi-même en train de lire l'obsédé. Quelle coïncidence !»«
Si vous le dites, » répondit Dinky toujours impavide.
« Je me demandais ce que vous pensiez de False. Je suis occupé pour l'instant, mais peut-être pourrions-nous en discuter plus tard. »
Sans se départir de cette expression vide et polie, Dinky répondit
« Peut-être que plus tard vous pourriez prendre votre exemplaire de l'obsédé, un grand format j'espère, et vous le carrer dans votre cul poilu, dans le sens de la largeur. »
Le sourire plein d'espoir de Finley s'évanouit. Il esquissa un salut discret mais parfaitement réglementaire.
« Désolé de vous trouver dans de telles dispositions, Sai. »«
Dégage de là !»
lança Dinky en rouvrant son livre et en le levant ostensiblement à hauteur de son visage. Bimli et Finley Otego reprirent leur chemin. Pendant la période de silence qui suivit, la maître d'Algul Siento tenta plusieurs angles d'approche, cherchant à savoir si Finley avait été profondément heurté par le commentaire du jeune homme. Le Taïn était fier de sa capacité à lire et à apprécier la littérature hume, ça Pimli le savait. Et c'est alors que Finley lui facilita la tâche en se posant les deux mains aux longs doigts, il n'avait pas le derrière particulièrement poilu mais les mains si, sur l'entrejambe.
« Je vérifie juste que mes couilles sont toujours là, » fit-il.
Et Pimli eut le sentiment que la bonne humeur qu'il entendait dans la voix du chef de la sécurité était bien réelle et pas forcée.
« Je suis désolé, » glissa Pimli. « Et s'il y a quelqu'un au paradis bleu qui se fait une crise d'angoisse existentielle post-adolescente, c'est bien ça, Yernsho. »
« Voilà qui me déchire, » gémit Finley.
Et lorsque le maître lui lança un regard alarmé, Finley répondit par un grand sourire, dévoilant sa rangée de dents minuscules et acérées.
« C'est une réplique célèbre, tirée du film « La fureur de vivre », précisa-t-il. « Dinky Earnshaw me fait penser à James Dean. »
Il réfléchit quelques instants.
« Sans le côté beauté ténébreuse, bien sûr. »«
Un cas intéressant, » commenta Prentice. « Il avait été recruté pour un programme d'assassinat mené par une filiale de Positronics. Il a tué son supérieur et il s'est enfui. Nous l'avons rattrapé, bien entendu. Il n'a jamais réellement posé problème, pas à nous. Mais il ne peut pas s'empêcher d'avoir cette attitude d'emmerdeur. »
« Mais à vos yeux, il ne représente pas un problème. »
Pimli lui adressa un regard en biais.
« Y a-t-il quoi que ce soit que tu sentes, toi, et que je devrais savoir ?»«
Non, non, je ne vous ai jamais vu aussi nerveux que ces dernières semaines. Bon sang, appelons un chat, aussi paranoïaque. »
Mon grand-père répétait souvent ce proverbe. On ne s'inquiète pas de lâcher les œufs que quand on approche de la maison. Et nous, nous approchons de la maison maintenant.
Il disait vrai. 17 jours plus tôt, peu avant que le dernier convoi de loups ne déboule au galop par la porte de l'aire de ravitaillement de l'Arc 16, leur équipement entreposé dans la cave de la maison d'Amly avait relevé la première entaille appréciable dans le rayon ours-tortue. Depuis, le rayon de l'aigle et du lion avait lâché. Bientôt, il n'aurait plus besoin des briseurs. Bientôt, la désintégration de l'avant-dernier rayon se produirait avec ou sans leur aide. C'était comme si un objet en équilibre précaire s'était subitement mis à osciller. Bientôt, il dépasserait son point d'équilibre parfait de manière irrémédiable, et alors, il tomberait. Ou, dans le cas de ce rayon, il claquerait. Un clin d'œil, et puis plus rien. C'est la tour qui allait tomber. Le dernier rayon, celui du loup et de l'éléphant, tiendrait pendant encore une semaine, ou peut-être un mois, mais guère plus. Cette perspective aurait dû ravir Pimli, pourtant tel n'était pas le cas. En grande partie parce que ses pensées s'étaient de nouveau tournées vers les Capes Vertes. Une soixantaine environ étaient partis pour la Cala, la dernière fois, le déploiement habituel, et ils auraient dû être revenus dans les 72 heures avec leur prise d'enfant de la Cala, comme à l'accoutumée. Mais là, rien. Il demanda à Finley ce que lui, il en pensait. Finley s'arrêta net, il prit un air grave.
« Je pense qu'il s'agit peut-être d'un virus. »«
J'implore ton pardon ?»«
Un virus informatique. C'est déjà arrivé maintes fois avec notre installation de Damli. Et il ne faut pas oublier une chose. Même s'ils sont la terreur d'une poignée de fermiers, les Capes Vertes ne sont rien d'autre que des ordinateurs sur pattes. »
Il marqua une pause.
Ou alors les Folken de la Cala ont trouvé le moyen de les tuer. Est-ce que je serais surpris d'apprendre qu'ils se sont enfin mis debout pour combattre? Un peu, mais pas tant que ça. Tout particulièrement si quelqu'un avec des tripes s'est porté volontaire pour leur donner un coup de main.
Et quelqu'un comme un pistolero, par exemple?
Finley lui adressa un regard à deux doigts de la condescendance. Ted Brottigan et Stanley Ruiz remontaient le trottoir sur des vélos à 10 vitesses, et lorsque le maître et le chef de la sécurité levèrent la main à leur intention, ils leur rendirent tous deux leur salut. Brottigan ne sourit pas, mais Ruiz si, de ce sourire sincère et débridé du véritable attardé mental. Il avait beau avoir des yeux globuleux, une éternelle barbe de 3 jours et les lèvres brillantes de salive. C'était là un sacré balèze. Dieu lui en était témoin, et un homme de cette rampe aurait pu faire pire que sa coquinée avec Brottigan, qui avait changé du tout au tout depuis qu'on l'avait ramené de sa petite escapade dans le Connecticut.
Pimli trouva amusant de constater que les deux hommes portaient des casquettes de tweed identiques. Leurs vélos aussi étaient les mêmes. Mais le regard de Finley l'amusa beaucoup moins.
« Arrête ça !»«
Arrêtez quoi, Sai ?»«
De me regarder comme si j'étais un gosse qui vient de faire basculer ses boules de glace par terre et que j'étais trop bête pour m'en rendre compte. »
Mais Finley ne recula pas. Il reculait rarement, et c'était là une des choses que Pimli appréciait hautement chez lui.
« Si vous ne voulez pas que les gens vous regardent comme un enfant, il faut veiller à ne pas vous comporter comme tel. Ces rumeurs de pistoleros sortis tout droit de l'entre-deux-mondes pour sauver la mise des plus démunis, elles courent depuis 1000 ans et plus, et à ce jour, pas un seul témoignage authentifié. » Personnellement, je m'attendrais plus volontiers à une visite de votre homme Jésus. L'Hérode disent que...
Finley grimaça comme s'il venait de prendre un coup sur la tête.
Ne commencez pas avec ce que disent l'Hérode. Vous respectez trop mon intelligence et la vôtre pour ça. Leur cerveau a pourri encore plus vite que leur peau. Quant au loup, laissez-moi suggérer ce concept radical. Peu importe où ils se trouvent ou ce qui leur est arrivé, nous avons assez de stimulants cérébraux pour terminer le boulot, et c'est tout ce qui m'intéresse. »
Le chef de la sécurité se tint un moment au pied des marches qui menaient au porche de la maison d'Amelie.
Du regard, il suivait les deux hommes sur leur vélo identique et fronçait les sourcils d'un air pensif.
« Brautigan nous a causé beaucoup de problèmes.
« N'est-ce pas ? »
fit Pimli en partant d'un rire contrit.
« Mais cette époque est révolue. On lui a fait savoir que ses chers amis dans le Connecticut, un gamin du nom de Robert Garfield et une fillette appelée Carol Gerber, mourront immédiatement s'il fait le moindre écart. Et puis il a fini par comprendre que, bien que bon nombre de ses camarades briseurs le regardent comme un mentor, et que certains, comme ce simplet avec qui il se promène, l'idolâtrent, eh bien ses idées philosophiques, dirons-nous, n'intéressent personne. Plus maintenant, en tout cas. Et puis j'ai eu une discussion avec lui après son retour, à cœur ouvert.
Finley eut l'air de l'apprendre. « À quel propos ?»«
De certains faits de la vie. Cy Brautigan a fini par admettre que ses pouvoirs uniques n'ont plus l'importance qu'ils avaient autrefois. On est allé trop loin pour ça. Les deux rayons restants vont lâcher, avec ou sans son aide. Et il sait qu'au bout du compte, il y aura forcément de la confusion. De la peur et de la confusion. »
Pimli hocha lentement la tête.
Brautigan veut être présent à la fin, ne serait-ce que pour réconforter ceux comme Stanley Ruiz, quand le ciel se déchirera. Viens, allons jeter un dernier coup d'œil aux cassettes et aux télémètres, par acquis de conscience.
Et c'est côte à côte qu'ils gravirent les marches en bois de la maison d'Amelie.